pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous accueillons Eugénie et Comelin, membres de l'UAPDB. Alors l'UAPDB, c'est l'Unité Action Patriotique de la Diaspora du Bénin et nous allons parler aujourd'hui de la situation du Bénin et des rapports avec la France. Bonjour Eugénie.
Bonjour Lucas.
Comment ça va?
Très bien.
Ravi d'être là?
Oui.
Super. Bonjour Comelin.
Et bonjour Lucas.
Comment ça va?
Enchanté, ça va.
Super. Moi, je suis ravi de vous accueillir tous les deux. On va parler du coup aujourd'hui de la situation du Bénin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du Bénin? Où c'est? Combien d'habitants il y a pour les gens qui ne situent pas vraiment le Bénin? Je vous laisse présenter le pays. Allez-y.
Oui, donc le Bénin, c'est un pays d'Afrique occidentale situé entre le Nigeria à l'est, le Togo à l'ouest, le Niger au nord, le Burkina Faso au nord-ouest.
D'accord.
Et bien sûr, au sud, l'océan Atlantique.
Il est important, l'océan Atlantique.
Tout à fait. Et aujourd'hui, le Bénin compte à peu près 12 millions d'habitants.
D'accord.
Et il est subdivisé en 12 départements.
D'accord. Donc la capitale, c'est Porto Novo et pas Cotonou, voilà, qui est la capitale économique, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Très bien. Bah, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la situation du Bénin aujourd'hui et de pourquoi vous vouliez participer à l'actualité des luttes aujourd'hui? Vas-y Eugénie.
Alors, le problème aujourd'hui est que les peuples sont en éveil. Mmh. Ils ont dormi pendant longtemps ou ils ont été même endormis. Et là, on constate que les peuples s'éveillent. Ils ne se laissent plus faire comme avant. Et le Bénin n'échappe pas à cette situation nouvelle que nous observons sur le plan mondial et particulièrement sur le continent africain. Alors, en ce qui concerne le Bénin, nous avons traversé une période difficile pendant la colonisation qui a abouti à l'indépendance en 1960. Mais les conditions que vivent les peuples prouvent que ces indépendances n'étaient que fictives. Et donc, nous sommes en plein dans la néocolonisation. Voilà, pour planter le décor. En ce qui concerne les peuples des anciennes colonies de la France.
Très bien, mais après l'indépendance du Bénin, il y a Mathieu Kérékou qui a accédé au pouvoir et qui a mis en place une république marxiste qui a été abandonnée au début des années 90. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu du coup un éloignement de la France et une espèce d'indépendance un peu plus prononcée?
Non, je pense qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. Mathieu Kérékou est arrivé le 26 octobre 1972, mais ce qu'il a installé, c'était une vraie dictature.
D'accord.
Le prétendu marxisme-léninisme n'était qu'un camouflage de la dictature. Il a dirigé pendant 17 ans et il a fini donc par être chassé par notre peuple le 11 décembre 1989. Voilà donc la réalité.
Mais donc avec les difficultés économiques, la dictature, c'est finalement Nice Forsoglo qui arrive au pouvoir au début des années 90 et qui est un ancien de la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact qu'il a eu sur le développement du pays ?
Oui, mais vous me permettrez également de revenir donc sur un autre aspect, c'est que lorsque Kérékou a été chassé du pouvoir le 11 décembre 1989, il s'est organisé ce qu'on appelle une conférence nationale des forces vives. Malheureusement, on s'est rendu compte que le système a été maintenu en place. Toutes les victimes de la dictature ont été ignorées. L'impunité a continué. Et donc, ce qui a suivi la chute donc, du régime donc, de la dictature de Kérékou a été un régime d'impunité totale et d'escroquerie qui s'est poursuivi pendant 30 ans. Malgré donc, des acquis démocratiques qu'il y a eu pendant donc, les grèves, etc. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, lorsque Nisofo-Soglo est arrivé, il y a eu quelques aménagements. Quelques acquis démocratiques ont été maintenus, mais le système a continué non de fonctionner. C'est-à-dire donc un système néocolonial où on attend tout de l'extérieur, où on se fait en fait gardien des intérêts donc des puissances étrangères. Et cela n'est pas bon pour les peuples.
Bien sûr. Et c'est la même chose avec Patrice Talon, qui est le président depuis 2016.
C'est encore pire.
C'est encore pire. Et... Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la situation du coup depuis que Patrice Talon est le président de la République du Bénin ?
Voilà, justement, donc... Comme vient de dire Comlan, la situation ne s'est pas améliorée. Kérékou est parti, mais comme le système a été arrangé pour perpétuer sur place, les présidents qui ont suivi ont travaillé dans le même système et maintenu le peuple dans la pauvreté, la misère, avec le franc CFA qui est une montagne du singe que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Avec un système économique qui n'est pas en faveur des populations de l'Afrique de l'Ouest, ancienne colonie et même néocolonie de la France. Alors, actuellement, on est passé de Soglo à...
Mathieu Kérékou.
Non, à Re-Mathieu Kérékou 2.
D'accord.
Et après son départ... Il y a eu Yahi Boni,
pendant 10 ans.
Lui aussi, venant de la Banque mondiale ou de la Banque de l'Afrique de l'Ouest, et les gens croyaient qu'il allait arranger la situation, ça a été un fiasco. Et après lui, les élections ont produit Patrice Talon, qui, pour faire un peu le différent par rapport aux autres, a commencé à adopter un langage. On pensait qu'il s'éloignait ou qu'il allait sortir du système. Puis, à partir du moment où il a vidé les caisses de l'État et les a chiffonnées en les mettant dans sa propre poche et en s'accaparant des richesses du pays, de tous les secteurs vitaux du pays, les gens ont compris qu'ils se sont trompés en l'élisant président. Alors, en difficulté, ils basculent carrément vers Macron. Et c'est là qu'il a signé, en 2019, un accord avec Macron pour récupérer les forces militaires françaises chassées du Sahel.
D'accord.
Or, la tactique de la France dans cette situation, c'est organiser les terroristes, les recruter, les armer, les financer, les former et les orienter par rapport aux satellites, au coin qu'il faut attaquer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Ils ont fait ça longtemps au Mali avant que les gens ne se rendent compte au bout de plus de 10 ans qu'en fait, les forces militaires françaises n'étaient pas là pour aider le Mali.
Bien sûr.
Et
ils maintiennent l'impérialisme sur place directement.
Voilà. Et donc, la même chose se passe chez nous. Et nous, on ne va pas attendre 10 ans avant de réagir. D'autant plus que le 8 janvier dernier, ils viennent de dégorger, de brûler et de tuer 35 jeunes militaires. À un point, carrefour des 3 pays, point le plus équipé, selon le commandant en chef qui a commenté l'assassinat. Donc, Nous, dans la diaspora, nous voulons protester contre cette situation. Pourquoi? Parce que les protestations qui ont démarré sur le terrain ont commencé à être réprimées. Mmh. Les jeunes élèves, les étudiants, les travailleurs, les femmes, tous ceux qui protestent contre cette tuerie sont pourchassés et mis en prison. Alors nous, ici dans la diaspora, on ne peut pas rester indifférent à cette situation. Donc nous organisons le samedi 15 février prochain, devant l'ambassade, une manifestation pour protester contre ce qui se passe au Bénin.
D'accord. On reviendra sur l'appel à manifester, bien sûr, le 15 février. Vas-y, Comla.
Oui, je voudrais faire deux petites précisions.
Vas-y, je t'en prie.
La première, c'est que le prédécesseur de Patrice Talon, comme président de la République du Bénin, c'était Yayi Boni, Thomas Yayi Boni. Mmh. Un élément très important ici, c'est que l'actuel président Patrice Talon, sur les 10 ans de gouvernance de Yayi Boni, son prédécesseur, Patrice Talon était un super premier ministre.
D'accord.
Mais mieux, c'est lui, en tant qu'homme d'affaires, qui a financé les deux campagnes électorales de son prédécesseur Yayi Boni.
D'accord.
Donc aujourd'hui, Patrice Talon n'est pas un homme neuf. En réalité, déjà sous Yayi Boni, il s'est accaparé tous les secteurs vitaux de l'économie donc du Bénin.
Oui, ça ressemble à du conflit d'intérêts. Il est arrivé avec ses énormes moyens.
Mais ce n'est pas que ça ressemble, c'est même pire qu'un conflit d'intérêts.
Vas-y, explique-moi.
Voilà. Donc, c'est une précision qu'il est très, très important d'avoir à l'esprit quand on parle donc de la gouvernance de Patrice Talon.
Bien sûr, mais avant même Patrice Talon, on a dit que ses prédécesseurs étaient de la Banque mondiale. Patrice Talon, lui, était un homme d'affaires très riche. Est-ce qu'il n'y a pas une mainmise, justement, des milieux financiers de la Banque mondiale sur le Bénin aujourd'hui?
Mais depuis longtemps, d'accord, ça a toujours été comme ça, avec les plans d'ajustement structurel, etc., qui n'en finissent pas. Hein. Depuis l'indépendance, beaucoup de pays africains ont connu cela.
Et dans tout le monde sait, années 80
tout à fait. Et tout le monde sait que qui dit plan d'ajustement structurel dit secteur éducatif en berne, parce qu'il n'y a plus de budget. Secteur de la santé en berne, parce qu'il n'y a plus donc de budget. Infrastructure en berne, parce qu'il faut rembourser donc les dettes.
D'accord.
La même dette, parfois, est remboursée 10 fois, 15 fois. Et le pays s'appauvrit de plus en plus. Le Bénin n'est pas une exception non, dans ce cas-là. Beaucoup de pays ont connu ça. Que l'aide, en fait, c'est pour garder la tête donc, des peuples sous l'eau. Ou si vous voulez autrement, le genou donc, des pays impérialistes sur le cou donc, de nos pays.
Bien sûr, avec l'aide du franc CFA, je suppose aussi.
Bien sûr, le franc CFA qui est donc une matérialisation
de la domination
française.
Bien sûr.
Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est... D'ailleurs, il y a un chercheur qui appelle ça donc la monnaie nazie. Hein. Le CFA est une monnaie nazie. Mais c'est pratiquement la même technique que les Allemands ont pratiquée donc en France, avec avec la monnaie.
Bien sûr.
C'est ça que malheureusement, depuis plus de 60 ans maintenant, on pratique dans tous les pays francophones d'Afrique.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le fonctionnement du franc CFA et comment il est favorisé pour maintenir la puissance économique de l'Europe, hein, la puissance de l'Afrique au service de l'Europe et particulièrement de la France?
Il sera très long de vous expliquer. Je vais tout simplement donner quelques points importants. Première chose, cette monnaie-là est fabriquée à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand, en France. Il y a une parité fixe entre le franc CFA et l'ancienne franc française. Et aujourd'hui, il y a une parité fixe entre le franc CFA et l'euro. Auprès donc du trésor français, il est créé ce qu'on appelle un compte d'opération. Les pays de la zone franc CFA, lorsqu'ils font des exportations et obtiennent donc des devises, ils sont obligés donc de déposer ces devises-là dans le compte d'opération. Et ils ne peuvent pas utiliser plus d'un certain pourcentage. Lorsqu'ils doivent dépasser le pourcentage, c'est la France qui se charge donc de leur prêter leur propre argent.
D'accord.
Et derrière, bien sûr, la France récupère donc des intérêts, etc.
Donc jamais possibilité de réaliser les investissements souhaités par le gouvernement lui-même. Et si, du coup, dépassement de ce que la France a prévu, en plus des intérêts à payer, donc une dette qui continue à s'auto-alimenter.
Voilà, en fait. Tout à fait. C'est pense qu'il y a très longtemps maintenant, c'était 75% des montants de devises qu'il fallait garder dans le compte d'opération. Après protestation, ça a été réduit donc à 50%. Je pense qu'actuellement, ça doit être autour de 50%. D'accord. D'ailleurs, en 93, contre l'accord donc, des pays, la monnaie a été dévaluée de 50%. c'est de la folie. Et nulle part au monde, cela ne s'est jamais produit. Et tout le monde savait. Hein? Alors qu'en général, dans les pays, lorsqu'un pays veut dévaluer, c'est une information qui est gardée secrète. Ah mais là, pour le cas donc, des pays donc, de la zone franc CFA, mais la terre entière était au courant donc il allait y avoir dévaluation. On a forcé donc la main donc des chefs d'État totalement. Qui en réalité donc sont de véritables
oui des pantins au service voilà, du pouvoir français
de la France voilà
bien sûr fait. Mais voilà mais ça tombe bien parce que c'est là où je voulais en venir mais il y a aujourd'hui une opposition à Talon notamment l'Alliance pour la Patrie qui est un rassemblement des forces de gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la difficulté au niveau démocratique pour les forces d'opposition de s'opposer à Patrice Talon?
À mon avis la difficulté se résume en un seul mot. Depuis avril 2016, notre pays vit sous les férues d'une dictature.
D'accord.
Et qui dit dictature, dit le contraire donc d'une démocratie. Les gens se battent dans le pays, mais lorsque ça n'arrange pas le dictateur, ben, soit il vous force à l'exil, soit il vous jette en prison, en vous mettant donc aux 20 ans, il vous fait un procès. Il a d'ailleurs mis en place une cour d'exception qui s'appelle CRIETE, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Systématiquement, quelqu'un est candidat en 2021. Les deux candidats, les deux personnes qui ont osé se porter candidat, ont été arrêtés, jugés de façon sommaire, jetés en prison. L'un a pris 10 ans, l'autre a pris 20 ans.
D'accord.
Voilà un peu donc le contexte. Donc il n'y a pas du tout de démocratie, il n'y a pas de liberté d'expression.
Il y a des élections ?
Toutes les élections qui ont été organisées sous la présidence de Patrice Talon ont été des élections chrysogènes qui sont soldées donc par des tueries.
D'accord.
L'armée a tiré donc sur les populations qui protestaient. Il y a eu donc des bourrades d'urnes. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a eu donc des gens qui ont réussi à filmer comment donc les bourrades d'urnes ont été opérées.
D'accord. Donc c'est un peu comme toutes les dictatures entre guillemets modernes où on donne l'apparence d'une démocratie, voilà. Mais derrière l'opposition est réprimée et il y a en fait uniquement le président qui peut être mis en avant à travers ces artifices de démocratie,
exactement.
On pourrait dire.
Exactement. Et il a encadré tout ça par une recodification des lois,
d'accord.
Qu'il est venu trouver. Il a tout chamboulé. Il a changé la constitution et il a imposé des lois, des codes maintenant pour les élections. Autrement dit, c'est lui qui nomme les députés. Ils ne sont pas élus, c'est lui qui les nomme. Les maires aussi. Alors, il contrôle, il a une mainmise totale sur tout l'appareil électoral du pays. La Cour constitutionnelle, c'est lui qui nomme et qui gère. Et il a institué un quitus que les partis doivent avoir pour exercer leur fonction de parti.
D'accord.
Mais c'est quitus, c'est lui qui donne l'ordre de les délivrer. Donc
c'est lui qui peut décider quel parti pourra s'exprimer, pourra se présenter, etc.
Tout à fait. Mais pour cela, il a quand même mis en place deux partis siamois hein, pour le soutenir.
D'accord.
Voilà. Donc, ceux-là ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent.
D'accord. Donc il y a une impression de multipartisme avec plusieurs partis que lui-même a accepté.
Oui.
Et les autres, ils sont bâillonnés, on les empêche de s'exprimer. Et on arrête les opposants, le cas échéant.
Et actuellement, la protestation, par exemple, contre la tuerie des soldats. Pendant qu'on proteste et qu'on arrête, il y a d'autres qui se sont érigés en griot pour vanter la gouvernance de Talon et demander qu'il s'éternise au pouvoir. Carrément.
Un troisième mandat et puis peut-être un nombre multiple,
voilà.
Une multitude donc d'autres mandats.
Comme il y en a dans certains pays qui ne sont pas très loin du vôtre.
Voilà, très bien. Tout à fait.
Et du coup, je voulais vous poser la question, quel intérêt a la France aujourd'hui à rester au Bénin et à renforcer, entre guillemets, sa présence au Bénin?
Alors cet intérêt, c'est premièrement, non plus comme Macron l'a dit, installer des bases visibles que les peuples décrit, mais disséminer ces troupes. Et l'endroit choisi du Bénin, comme on l'a dit Macron le 6 janvier dernier devant les ambassadeurs, c'est avec l'idée de déstabiliser les pays du Sahel qui lui ont échappé.
D'accord.
Et pour pouvoir les récupérer. Parce que vous savez que dans cette zone, se concentre tellement de richesses que pendant que la France gérait ces pays du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les avions Air France atterrissaient, y compris British Airways, atterrissaient à Gao et ramassaient l'or et partaient, sans que ce soit comptabilisé dans le budget du Mali. Et c'est pareil pour l'uranium. C'est pareil pour toutes les richesses qu'ils allaient ramasser, dont ils revendaient une partie aux pays de l'Union européenne. Et l'Union européenne est au courant de ce qui se passe.
Bien sûr, j'en
et
pas.
Donc, sans que ça les arrange, ils ferment les yeux et la bouche et ils exigent des élections. Et tout le monde sait que ce sont des élections truquées. C'est pour ça qu'ils sont derrière les pays de l'AES et exigent des élections. Dans un pays en guerre, c'est la sécurité des peuples qui passe avant tout. Mais eux, comme leurs intérêts ne sont pas les mêmes que ceux du peuple, il faut absolument mettre des civils manipulables à la tête de ces pays qui veulent récupérer. Et pour le faire, il ne faut pas qu'ils s'éloignent de la zone.
Bien sûr.
Ils ont intérêt à s'incruster au Bénin. Or, le Bénin a une histoire. Le Bénin a une histoire par rapport à la présence militaire française de notre pays.
Il faut quand même rappeler que, à l'indépendance des pays francophones d'Afrique, la France, tout en disant qu'il y avait indépendance, en réalité, n'est pas partie.
Donc il y a toujours eu une présence militaire française. Non,
il n'y a pas seulement la présence militaire. Il a signé avec tous ces États-là ce que nous appelons aujourd'hui le pacte colonial. Le pacte colonial fait de ces États un marché captif pour les multinationales et les entreprises françaises. Deux, une source des matières premières pour la France, pour les industries donc en France. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, selon donc le pacte colonial, un pays, ancienne colonie française, ne peut pas s'équiper sans l'accord de la France en équipement militaire. Il ne peut s'équiper ailleurs que si la France dit « Ah, tel équipement, je ne peux pas vous le fournir. »
Et encore.
Et encore. Et donc, tout ça, ce sont autant donc d'intérêts pour la France.
Bien sûr.
Récupérer donc les matières premières, récupérer l'or, récupérer l'argent.
Et être l'unique fournisseur d'équipements militaires
voilà,
pour ces pays-là.
Voilà, entre autres, etc. Et être donc un débouché pour tous les produits manufacturés. Donc, la France n'a aucun intérêt que ces pays-là se développent, que ces pays-là s'industrialisent. Voilà donc le fond, le cœur de l'intérêt donc de la France à persister, à vouloir donc rester donc dans ces pays-là. Et bien sûr, tous les prétextes sont bons et tous les stratagèmes sont bons pour essayer donc de rester.
Bien sûr. Et donc, c'est dans cette partie que, du coup, depuis 64, vous aviez l'interdiction de troupes, des troupes étrangères au Bénin. Et depuis 2019, il y a eu un accord entre Talon et Macron et les troupes françaises sont revenues
s'installer.
Au Bénin.
Voilà, se sont redéployés au Bénin une fois qu'ils ont été chassés donc du Niger, du Mali et du Burkina Faso. La France cherchait donc à les redéployer et Talon s'est jeté dans les bras de la France pour dire ben, « Moi, je récupère donc une partie, vous pouvez donc venir vous installer chez moi. »
Et là, ils sèment la terreur par terroriste interposé. C'est ça qui est dommage. Parce que ce sont eux qui informent les terroristes de là où il faut aller attaquer. Et malheureusement, c'est des populations qui n'ont rien à voir avec eux, qui sont assassinés, sacrifiés. Et là, ils viennent de tuer 35 jeunes militaires à ce poste-là. C'est un système pour faire peur aux gens et leur dire en même temps, vous avez besoin de nous pour vous protéger. Comment ils protègent ? Et le poste le plus équipé a été attaqué pendant 8 heures de combat, sans aide. Les gens ont été massacrés.
C'est l'attaque du 8 janvier, ça, c'est ça ?
Oui,
tout à fait. Mais de façon générale, les faits sont là, hein, de façon simple. Il faut savoir que dans ces zones-là, il n'y a pas d'infrastructure en tant que telle, il n'y a pas de grande route. Mmh. Or, les terroristes ont des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de motos pour se déplacer. Comment ils sont fournis en carburant ?
Mmh.
Ils ont des dizaines et des dizaines, des centaines de voitures pour se déplacer. Où est-ce qu'ils les trouvent ? Les armes, comment ils les achètent ? Qu'est-ce qui les amène donc dans le désert ? Parce qu'en général, c'est des gens qui circulent très facilement dans le désert. Mais Comment ils sont équipés? Comment est-ce qu'ils sont approvisionnés?
Comment, justement?
Mais justement, mais c'est tout cela qui montre donc que derrière eux, il y a des commanditaires qui ont d'énormes moyens qui dépassent largement donc les États. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous disons aujourd'hui donc que pour mener une lutte efficace contre le terrorisme, les pays de la sous-région ont besoin donc de coopérer entre eux. Sinon, mais lorsque par exemple les militaires, l'armée burkinabé par exemple arrivent à protéger sa frontière et les renvoient, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tenteront donc de venir se réfugier au Bénin, sinon au Niger. Et donc si les pays ne coopèrent pas, ne s'échangent pas des informations, mais la lutte contre le terrorisme ne pourra pas être efficace.
Oui, bien sûr. Et là, je suppose que la France empêche en plus tout accord régional. Et donc, elle se rend indispensable pour lutter contre le terrorisme.
Tout à fait. Il fait tout, mais bien sûr, il ne le fait pas officiellement. Il ne le dira jamais officiellement.
Bien sûr. Hein,
mais on comprend bien sûr qu'il fait tout pour éviter donc, que ces pays-là donc, ne coopèrent entre eux. Parce que s'ils coopèrent, ben, ils seront beaucoup plus efficaces. Et donc, la France ne pourra plus venir jouer les sapeurs-pompiers pyromanes, quoi, en quelque sorte.
Mais le vrai commanditaire, c'est la France. Le vrai commanditaire de ces troupes terroristes, c'est la France. Et il y a parmi les terroristes qu'on tue, des Français aussi.
D'accord. Et je voulais vous poser la question. Avant 2019, et du coup l'arrivée des troupes françaises au Bénin, est-ce qu'il y avait autant d'attentats qu'il y en a maintenant?
Ah ben non, pas du tout. Il n'y en a pas autant.
Non.
Beaucoup moins.
On n'en a jamais connu. On entendait parler de leurs agissements au Mali. Donc, après le Mali, ça a été... Le Burkina Faso, la tactique est la même. On attaque les peuples, on en tue pour faire peur. Et après, derrière, on vient vous dire, on vous propose notre service pour vous sauver.
D'accord.
C'est ça la tactique.
Donc aujourd'hui, ces attentats, c'est uniquement la justification pour la présence de l'armée française sur place.
Oui.
D'accord.
Et c'est ces armées, ces troupes françaises, dans cette sous-région, c'est pour protéger les intérêts de la France. Rien d'autre. Si vous avez entendu le ministre Botton, ancien ministre Botton, qui est maintenant à l'Union européenne, et d'autres, bien d'autres, il propose que la France récupère à nouveau ces pays qui lui échappent. Et comment il peut le faire si ce n'est pas par la violence et la force militaire?
Bien sûr.
Hein? On parlait d'achat d'armes. Et les achats d'armes, le Mali, pour se protéger contre les terroristes, a payé des armes auprès de la Belgique et la France a bloqué. Donc, non seulement on ne vous aide pas, mais vous achetez des armes, on ne vous livre pas. Alors, vous faites quoi? Vous vous laissez exterminer? Non, il faut faire autre chose, il faut voir autre chose. Il faut diversifier le partenariat. Surtout qu'on n'est pas marié avec quelqu'un et encore que le mariage se défait, le divorce n'existe pas pour rien. Donc, on est marié, ça ne va pas, on divorce et on va voir quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé depuis des siècles dans cette région de l'Afrique.
D'accord, mais la France ne laissera pas de toute façon le Bénin partir.
La France n'a aucun intérêt à laisser les pays africains s'autonomiser. Mais depuis le temps que les anciennes générations ont subi l'humiliation, ont subi l'exploitation, la domination, c'est une nouvelle génération qui est en place maintenant, qui ne veut plus subir la même chose que les grands-parents, les parents. C'est ce qu'il faut que la France comprenne. Il change de logiciel, parce que son logiciel n'est plus adapté à l'actuelle situation en Afrique. La génération actuelle, c'est fini. C'est fini, l'humiliation, comme a dit un écrivain célèbre, c'est fini la manière de dominer nos chefs d'État et de les rendre...
Des subalternes de la France.
Voilà. Hein, c'est des sous-préfets. Les chefs d'État africains, c'est des sous-préfets de la France. Mais et on leur donne des ordres directement.
Est-ce que justement, il n'y a pas un danger aujourd'hui qui est que la France utilise le Bénin comme une force de déstabilisation, un peu comme les États-Unis et les puissances occidentales font déjà au Rwanda avec le Congo. Oui. Est-ce que le danger, c'est pas que le Bénin ait le même rôle sur la région, sur
exactement.
Le Sahel?
Mais
c'est déjà ce qui
c'est
se
exactement.
Passe.
C'est
déjà le cas.
Aujourd'hui, notre pays, le Bénin, est devenu une source d'agression contre tous ses voisins.
Oui.
Contre tous ses voisins.
Que ce soit le Togo, le Burkina, le Niger, le Nigeria.
Le Nigeria, oui.
Bien
tout
sûr.
À fait. Et ça, nous disons non, c'est pas possible. D'autant plus que aux frontières donc, du Bénin, ce sont les mêmes peuples.
Oui.
Bien sûr.
Quel que soit le pays qu'on prend, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso, à la frontière, souvent, c'est les mêmes peuples qui sont
des deux côtés de la frontière. Pourquoi ? Parce qu'en 1885, lorsqu'ils ont partagé l'Afrique, ce ne sont pas des gens qui ont été vivre la réalité sur le terrain. Ils ont pris la carte, ils ont découpé. Toi, tu prends ci, moi, je prends ça. Et souvent... Et les mêmes populations se trouvent...
De deux côtés de la frontière.
De deux côtés de la frontière.
D'accord.
Parfois, les mêmes familles, la même famille à Goué, où passe la frontière, dans des maisons...
Si vous permettez, je vous donne une petite histoire. La CEDEAO, lorsque le président Bazoum a été renversé, la CEDEAO a pris la décision qu'il faut tout mettre en œuvre pour aller restaurer Bazoum dans son rôle de président de la République. Les chefs coutumiers de la région du nord du Nigeria, les Haoussa, sont partis voir le président et ont demandé au président, mais vous voulez que nous allions donc agresser nos frères Haoussa du Niger? Ça ne se passera jamais au Nigeria. Il est hors de question que le Nigeria déclare la guerre au Niger. Ce qui a fait donc que le Niger a été obligé de reculer. Tout simplement.
Donc c'est la fraternité des peuples hein, comme seule alternative à l'agression financière et à l'oppression.
Oui.
Bon, sur ces belles paroles, on va faire une petite pause musicale et on revient dans 2-3 minutes pour parler de notre sujet qui est le Bénin. À tout de suite.
Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. L'aluminium, si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva.
va dans le Ghana. Une partie des lampis sous-sous se trouva dans l'Empire Mandin. Une partie des lampis Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
Avec Eugénie et Comelin, on va revenir sur les attentats du 8 janvier dernier et on va essayer de, voilà, de comprendre quelles ont été la raison de ces attentats et quelles ont été leurs conséquences sur la démocratie locale. Est-ce que, Eugénie, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ?
Alors, le problème ne commence pas le 8 janvier. Il Bien était sûr. Là et couvert. Donc, les attaques terroristes se faisait dans le nord du pays. Les premières personnes qui en parlaient étaient arrêtées et mises en prison pour fausse intervention, intoxication, etc. Puis, le 8 janvier, ça a été le grand, la grande sauvagerie où les renseignements ont permis aux terroristes de mettre la main sur un poste important appelé le Mirador, qui est le poste le plus équipé des petits postes installés par la France pour ses militaires. Et comme a dit Macron, il ne voulait plus de présence officielle de bases militaires, mais des troupes.
Juste, je te coupe sur ça. C'est pour ça que les bases militaires sont devenues des bases opérationnelles. C'est ça. On a seulement changé le nom.
Le nom et la tactique.
Voilà, exactement.
Parce que rendre moins visible, ce sont ses propres mots, rendre moins visible la présence des bases militaires françaises.
Donc on est
en les disséminant en troupes.
D'accord. Donc on est toujours présent.
Et on parle d'instructeurs militaires.
Voilà.
Pour ce. Comme s'ils allaient instruire les
militaires béninois.
D'accord, très bien.
C'est ce qui est dit dans l'accord que lui-même a lu devant les ambassadeurs le 6 janvier. Mais en fait, la réalité est tout autre sur le terrain. L'envie de ne pas partir et d'utiliser notre territoire pour déstabiliser les pays du Sahel se traduit par l'incursion des terroristes à l'intérieur du territoire béninois. Donc l'objectif, c'est de faire peur aux populations et leur dire, vous savez, si vous n'acceptez pas qu'on vienne vous aider, vous couvrir, les terroristes vont vous massacrer.
Donc en fait, cet attentat du 8 janvier, c'est l'exact exemple de comment la France
en masse,
fait peur.
En masse.
D'accord.
Mais ça se faisait par 5, 8, 5, 10. Mais là, ça a été en masse, 35.
35 personnes qui sont mortes, d'accord.
Et c'était horrible de voir les corps calcinés. Et ils ont égorgé des militaires. Et ils ont filmé, publié. Vous savez l'effet que ça doit faire sur les gens. Donc, semer la peur pour pouvoir accepter leur présence. Or, on les a vus à l'œuvre ailleurs. Ils n'ont pas sauvé les gens pendant plus de 10 ans qu'ils ont protesté de lutter contre le terrorisme. On n'a eu aucun résultat. Donc, ce n'est pas au Bénin qu'ils vont l'avoir. Et le peuple béninois n'est pas prêt d'accepter 10 ans de massacre. On n'est que 13 millions. Et si ça continue comme ça, ça n'ira pas loin. Donc, la diaspora se tient aux côtés du peuple béninois pour dire non aux troupes étrangères, non aux troupes françaises au Bénin. Ils doivent partir.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ces attentats ? Il y a eu, je crois, des arrestations dans la société civile suite aux contestations des Béninois ?
Oui, ce ne sont pas les assaillants qu'on a recherchés pour punir, mais ce sont les témoins qui en informent les populations que des faits horribles se déroulent au nord de notre pays, ce sont les témoins qu'on arrête. Et les manifestants qui veulent rendre hommage aux soldats tués, ce sont ces manifestants qu'on arrête et qu'on met en prison, qu'on juge par le CRIET. Donc, il faut absolument que le président Patrice Talon écoute son peuple et qu'il accepte que le temps où on manipulait l'information pour berner le peuple est terminé. Ça ne peut plus continuer. Pendant qu'on tuait les gens au nord, par exemple, lui, il organisait Vodou Day à Ouida où les gens dansaient, dans le sud. Donc, c'est deux situations incompatibles. Il n'y a pas eu de compassion pour les gens qui sont décédés, leurs familles, rien du tout.
Bien sûr. Et donc, du coup, c'est la société civile qui pose des questions, qui est réprimée, et il n'y a pas de vraie enquête qui est faite pour déterminer.
Il n'y a pas d'enquête. Mais...
Les drapeaux n'ont pas été mis en berne, il n'y a pas eu de deuil national, rien de tout
rien
ça.
Du tout.
Et pendant que tout le monde était dans la tristesse, mais Patrick Talon et son gouvernement ont jugé qu'il était nécessaire qu'ils continuent donc leur vaudou day pendant 3 ou 4 jours.
D'accord. Ah oui,
c'est tout simplement inacceptable, quoi. C'est ce que nous appelons le président de tous les parjures. C'est la haute trahison, quoi.
Mm-hmm. Et du coup, c'est suite à ça que vous faites votre appel à manifester du 15 février qui sera devant l'ambassade du Bénin, c'est ça ?
Devant l'ambassade du Bénin, c'est solennel que tous les Béninois de la diaspora qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses se passent aujourd'hui dans notre pays, qu'ils viennent le témoigner par leur présence. Parce que la peur est agitée pour empêcher les gens de réfléchir, de bouger. Mais maintenant, la peur doit changer de camp.
Avec deux objectifs principaux. Allez-y. Premier objectif, rendre hommage aux 35 soldats qui ont été massacrés. Deuxième objectif, dénoncer la gouvernance mafieuse et dictatoriale de Patrice Talon. Et de ses amis, bien sûr.
Et parce qu'il y a une chose qui, peut-être que vous avez sûrement déjà mise, comment dire, pointée du doigt, c'est qu'en fait, les militaires béninois ont été massacrés, mais l'armée française qui était censée, du coup, qui est censée être présente pour les protéger, pour leur venir en aide, elle n'a pas bougé.
Non.
Non seulement elle n'a pas bougé, mais officiellement, ils ne sont pas censés exister.
Bien sûr.
Ils ne sont pas censés être là. Officiellement, ils ne sont pas censés
être là. Ils sont moins visibles, en tout cas.
Voilà.
Et le poste le plus équipé à ce poste Mirador a été un point d'attaque où, normalement, tous les moyens de prévoir une telle attaque étaient présents. Mais rien ne s'est fait pendant 8 heures de temps
pas
où
de
ce
renfort,
massacre.
Pas de renfort. Rien du tout.
Rien. Pas de secours.
Pas des militaires béninois. Même pas des militaires béninois. Hein. Donc, ne parlons même plus donc des invisibles, des militaires qui ne sont pas censés exister sur le territoire national, quoi. Voilà, tout simplement.
D'accord. Et l'UAPDB, quelles sont vos revendications si on va plus loin que cette manifestation et que ce qui s'est passé récemment ?
Oui, bien sûr, il faut bien noter que l'UAPDB a une charte.
D'accord.
Et la charte dit clairement la chose suivante. Dans la mesure où le Bénin se trouve sous une dictature depuis 2016. Que toutes les élections organisées par Patrice Talon se sont soldées par des tueries, par des bourrages d'urnes. L'UAPDB appelle le peuple béninois à ne plus se sentir engagé par quelques promesses, par quelques échéances électorales que ce soit, tant que c'est organisé par Patrice Talon. Parce qu'on sait comment ça va se terminer. Ça va se terminer donc par des bourrages d'urnes, ça va se terminer par des tueries, pas des emprisonnements. Et Patrice Talon, tout le monde se rend bien compte que Patrice Talon veut se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. D'ailleurs, il a donné le signal, hein, c'est son ami le plus proche, que tout le monde considérait comme un vice-président, sous prétexte qu'il veut organiser un coup d'État.
C'est M. Zemsou, c'est ça ?
Non, c'est M. Bocor, Olivier Bocor.
D'accord.
Mais sous prétexte qu'il veut organiser un coup d'État, parce qu'il a des réseaux donc, qui ont commencé à faire campagne pour dire qu'il sera le prochain président, mais ça n'a pas plu au président Talon. Il lui a fait un procès sommaire et il a jeté en prison 20 ans de prison.
D'accord, voilà. Bien sûr. Mais au-delà du président Patrice Talon, c'est quand même la, l'impérialisme français qui doit être mis en cause.
C'est le système qui doit dégager. C'est le système, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme, c'est le système.
C'est exactement ce que je dis.
L'homme, d'accord, mais il symbolise le système. Et c'est ce système qu'on va dégager.
D'accord. Et d'où ma question. Quels sont les arguments de l'UAPDB aujourd'hui pour essayer de faire un changement de système?
Oui, comprenons-nous bien. L'UAPDB n'est pas un parti politique.
C'est un rassemblement de la diaspora uniquement.
Des patriotes, des compatriotes de la diaspora qui ont compris qu'on ne peut plus accepter que Patrice Talon continue de diriger notre pays. Il est indigne de diriger notre pays. C'est le président de l'indignité totale. L'UAPDB appelle donc les forces patriotiques qui se trouvent sur le terrain à se battre sans se dire « Ah ben il y a les élections en 2026, donc peut-être qu'on va gagner sous Talon. » Non seulement vous ne gagnez rien, mais en allant aux élections, vous consolidez le dictateur. Mmh. Il a mis en place toute une série de lois scélérates pour se maintenir au pouvoir. Donc, ne vous laissez plus berner par d'hypothétiques échéances électorales, organiser les travailleurs, organiser l'ensemble du peuple pour le chasser du pouvoir dès que possible, sans attendre même 2026. C'est ce que donc l'UAPDB dit. Et aujourd'hui, l'UAPDB donc a sur le terrain un partenaire qui s'appelle le Front Patriotique contre l'agression contre le Niger et pour donc la liberté et le paix. Voilà grosso modo le message donc de l'UAPDB.
D'accord.
Et nous, on est porte-voix de ce que fait le peuple sur le terrain. Parce que le silence tue deux fois, on a dit. Donc tout ce qui se passe sur le terrain, nous, on est les porte-voix du peuple béninois.
Et pour la diaspora béninoise, quelles sont leurs possibilités d'agir pour participer au changement que vous évoquez?
Nous, on ne peut rien faire d'ici.
D'accord.
C'est sur le terrain, c'est le peuple. Mais soutenir le peuple et diffuser les informations sur ces luttes. Parce que souvent, l'Union européenne, l'ONU et les instances internationales, la communauté internationale, que nous mettons entre griffes, on sait comment ça fonctionne. Donc, ils ont des intérêts dans le pays. Ils ont des intérêts. L'Union européenne a des intérêts dans les 14 pays francophones de la France. Donc, ils n'ont pas à attendre que ça change pour la France, ça change pour la France, ça change pour eux. Donc, il faut absolument que les peuples se prennent en charge et nous, on est là pour soutenir la prise en charge du peuple par le peuple.
Donc, si vous permettez, pour résumer, grosso modo, que fait la diaspora à travers son creuset transpartisan qui est l'UAPDB? Premièrement, informer l'opinion internationale, informer l'opinion nationale de tous les pays où se trouvent des membres de l'UAPDB. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, manifester, faire des manifestations de rue. C'est ce que nous allons faire le 15 février prochain, le samedi 15 février, devant l'ambassade du Bénin à Paris. Troisième chose importante, il nous faut soutenir nos frères et sœurs qui se battent sur le terrain, qui prennent tous les risques, qui sont jetés en prison. Il faut dénoncer cela et les soutenir. Bien sûr, avec nos maigres moyens, il faut les soutenir quand même. Cela est très, très important. Et comme dit ma sœur Eugénie, le silence tue deux fois. Donc, nous devons tout faire pour qu'on n'entoure pas donc cette tuerie-là, ces emprisonnements-là, par le silence. Et donc, nous avons le devoir d'informer l'opinion française. Il faut bien faire la différence. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dénonce l'impérialisme international, on dénonce la France impériale, que nous n'avons pas compris l'importance de solidarité entre les peuples.
Bien sûr.
Le peuple béninois et le peuple français ont tout intérêt à coopérer. Mais une coopération gagnant-gagnant. Parce qu'on a aujourd'hui où l'un prend tout et laisse l'autre systématiquement et éternellement dans la pauvreté, dans la misère totale.
Oui, bien sûr. Changer ce paradigme hérité des époques coloniales et l'impérialisme français qui se perpétue. J'ai une dernière question par rapport à ça.
L'UAPDB est sur le continent européen, le continent africain, le continent américain.
D'accord. Donc la diaspora béninoise, partout où elle est là, essaye d'informer, de peser sur la démocratie.
Ce que nous appelons donc des pôles continentaux, le pôle Afrique, le pôle Europe et le pôle Amérique.
D'accord. Et comme vous l'avez dit, nos intérêts convergent et vos intérêts peuvent converger aussi avec les pays voisins qui pourraient être agressés par la présence française. Je pense au Togo, au Niger notamment et au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des coopérations entre les pays pour sortir de ces politiques impérialistes qui
Mais aujourd'hui, c'est uniquement entre les pays de l'AES, les États, l'Alliance des États du Sahel, qui a une coopération. En dehors d'eux, il n'y a plus d'autres coopérations. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'UAPDB dit il est très important pour que la lutte contre le terrorisme soit une lutte efficace et réussisse, il faut qu'il y ait coopération donc entre les peuples frères de la même région. En particulier ici, par exemple, l'Afrique occidentale, il faut que tous ces pays-là coopèrent. Et donc, de ce point de vue-là, nous appelons à ce qu'on coopère avec tous les pays, le Togo, le Nigeria, les pays de la CEDEAO, les pays de l'Alliance des États du Sahel aussi. Dans cette lutte-là, pour que la lutte réussisse, pour qu'elle soit efficace, il faut absolument donc qu'il y ait cette coopération-là. Je l'ai brièvement expliqué tout à l'heure. Sinon, mais les terroristes qu'on charge d'un côté, mais ils s'en vont se réfugier dans l'autre pays. Ouais, on les charge de là-bas, ils s'en vont se réfugier dans un troisième pays.
Donc
ça devient une lutte sans fin. Quoi.
Oui.
Alors que si les États coopèrent, ah ben attention là, je suis en train de les poursuivre, là, ils viennent de traverser la frontière. Et là-bas, donc, on les attend. Il y a coopération, il y a échange d'informations. C'est capital pour l'efficacité de la lutte et pour sa réussite.
Très bien. Ben, un très beau mot pour amorcer la fin de cette émission. Effectivement, la coopération entre les peuples, c'est ce qui nous sortira de ces situations. Comme Junie, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à la situation?
Que tous les Béninois et les amis du Bénin, tous les Africains, les panafricanistes, qui sentent qu'il est temps que les choses changent et il est surtout temps que la peur change de camp, se retrouvent avec nous devant l'ambassade samedi prochain de 14h à 16h, 87 avenue Victor Hugo,
c'est ça,
métro Victor Hugo.
C'est ça, dans le 16e arrondissement de Paris, c'est l'adresse de l'ambassade du Bénin.
Exact, voilà.
Moi je dis tout simplement, peuple français et peuple béninois, nous avons des intérêts à long terme. Nous avons intérêt donc à coopérer. Et nous qui sommes d'origine béninoise et qui vivons en France en particulier, nous ne faisons pas la confusion. Nous sommes de tout cœur avec le peuple français. Nous savons que le peuple français vit les mêmes difficultés que nous et que nos deux peuples ont intérêt à coopérer. A contrario, nous confondons les gouvernants qui veulent donc maintenir les peuples africains dans la misère noire et la misère éternelle. Et ça, aucun des deux peuples ne le souhaite.
Effectivement, c'est des choses qu'on dit beaucoup. C'est que les peuples ont des intérêts communs qui vont au-delà des actes de nos dirigeants. Et effectivement, les ouvriers français ont plus d'intérêt à soutenir les travailleurs béninois et les forces démocratiques béninoises plutôt que d'encourager ce système impérialiste qui appauvrit la France et les pays du Sud également, particulièrement les anciennes colonies.
Oui. Merci pour le résumé.
Avec grand plaisir.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur l'École Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands, de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'États, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'États, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'États, pour profiter de nos combats.